Cécile de Ménibus, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez la coéquipière de Coé dans l'émission phare de TF1, La Méthode Coé. Dans les années 2000, vous avez présenté beaucoup d'autres émissions, seul ou en duo, notamment avec Jean-Marc Mordini. Vous avez été sur TF1, Direct 8, mais également sur Gulli. Et depuis 2015, en parallèle de vos émissions sur la TNT et la radio, parce que j'ai pas dit que vous faisiez aussi de la radio, vous entamez une carrière de comédienne au théâtre. Là, vous avez un nouveau spectacle. Ça s'appelle Molière, si tu nous regardes. C'est à la Comédie de Paris. C'est une pièce de théâtre, mais pas seulement, si j'ai bien compris.
Absolument. Ouais. C'est un spectacle plutôt. Une comédie réalité.
Ah bah oui, ça veut dire quoi?
Bah ça veut dire que c'est une...
Vous avez même dit c'est une comédie-réalité connectée.
Voilà.
Et comme j'ai rien compris, je suis content que vous soyez là.
C'est une comédie-réalité parce que sur le fond c'est une comédie-réalité parce que tout ce qui est à l'intérieur est vrai, tout est vécu, c'est vraiment du vécu, et connecté puisque interviennent dans leur vrai rôle des vrais gens de la télé auxquels nous adressons par Skype. Voilà, donc c'est totalement connecté, il y a une vingtaine de guests.
Mais comment vous faites? Ils sont là tous les soirs?
Ils sont pas là tous les soirs, ils sont enregistrés et moi je leur réponds en direct.
Parce que je peux dire la liste, il y a une flopée de gens célèbres, Ardisson, Stéphane Bern, Laurence Boccolini, Dave, Michel Drucker, Claude Lelouch, le cuisinier Thierry Marx, Gilbert Montagnier, Bernard Montiel, Jean-Pierre Pernaut, Marc Villalonga.
Oui, wow. Et d'autres.
Et vous les payez ou pas?
Pas du tout. Mais ne dites pas ça malheureux, ils vont m'appeler. Non, ce sont des gens qui interviennent dans le spectacle dans leur vrai rôle. C'est Cécile de Ménibus, animatrice télé, qui arrive à un moment de sa vie où elle fait moins de télé et elle a bien les boules. Et elle aimerait réexister dans un autre milieu qui n'est pas le sien, en l'occurrence la comédie. Donc elle va faire appel à une jeune femme qui s'appelle Claire Jasse, qui est une vraie auteure, vraie comédienne et vraie metteur en scène, qui a entre autres écrit pour Florent Père. C'est exactement ma vraie vie et en toute autodérision.
Vous réfutez le terme pièce de théâtre, mais le titre fait allusion à Molière.
Absolument.
Expliquez ce paradoxe.
Le paradoxe, c'est lorsque j'apprends à Michel Drucker que je veux faire de la comédie, il regarde la caméra comme il fait régulièrement, il dit « Molière, si tu nous regardes ». Voilà, puisque c'est exactement ce qu'il dit généralement. Et donc, il implore Molière en disant « Molière, on ne peut pas la laisser faire ça, c'est pas possible, parce qu'il estime que j'ai pas suffisamment de talent pour faire de la comédie ».
Oh, j'y pense. En 2015, vous avez fait votre première expérience au théâtre,
ouais.
Pour vous habituer à avoir du coffre et appréhender une salle. C'était dans la pièce « Le bouffon du président ». C'était à Paris, au Théâtre des Variétés, mais ça a aussi circulé partout en province. C'était avec Franck de la Personne. Or, ce comédien est devenu le monsieur culture du Front National.
Oui.
Vous le saviez ou pas?
Ah non, enfin je le savais, oui, je l'ai juste.
Vous saviez qu'il était Front National
Ah bah, c'est l'une des raisons pour laquelle je suis partie. C'est pour ses engagements que je ne supportais plus en région. C'est son comportement et ses engagements. Et puis c'est durant certaines discussions avec Michel Guidoni et Franck de la Personne, je me suis dit, non, je ne suis pas du tout de ce monde-là. Je ne suis pas comme eux et je ne cautionne pas des comportements ou des attitudes. C'est pas possible. Donc voilà.
Guidoni l'imitateur?
Oui.
Parce que lui aussi, il était.
Ils ont une espèce de couleur qui ne me ressemble pas. Après, je n'irai pas jusqu'à les outer dans leur politique, mais...
Ah bah maintenant, c'est fait.
Non, mais ils ont des propos qui ne me correspondent pas.
Autre actu, vous avez fait des révélations récentes sur votre embrouille et Croque Sifredi. C'était dans une émission de la méthode Coé. On avait vu le dérapage à l'antenne. Ils vous avaient attrapé et poussé sur la table dans une position limite. Mais vous dites... que ça a continué en coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, c'est une histoire d'il y a 10 ans et je ne sais pas pourquoi ça ressort là tout à coup.
Parce que j'en avais parlé à Télé Loisirs.
Non,
en mai dernier.
C'est eux qui l'ont évoqué. C'est un espèce de vieux truc, une espèce de vieille humiliation sexuelle d'un invité. Et moi, je suis assez jeune, donc je ne sais pas comment le faire. On est dans une émission comique. Il se passe un truc et puis je sors du plateau très très énervé. Il me suit et il me chope par le cou. Il me soulève puisqu'il fait 1m90 et il me met sa langue dans la bouche. Et là, je hurle, j'appelle la sécurité pour me dégager. Et c'est extrêmement traumatisant. Parce que moi, ça va, parce que je suis forte et que je peux... Je me dis, j'espère qu'il ne fait pas ça à tout le monde.
Et attendez, vous avez même raconté, je cite vous, Cécile de Ménibus dans VSD, il a osé glisser sa main dans la culotte de l'humoriste Florence Foresti.
Ouais. C'est-à-dire qu'on a enlevé la séquence tellement c'était... Il est sans foi ni loi. Il n'a pas de limite. Cet homme-là.
Cécile de Ménibus, avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Cécile de Ménibus, avec nous, animatrice télé sur le déclin, qui décide de se lancer dans un one-man show pour revenir tête d'affiche. Ça vous fait rigoler? C'est
oui.
La première phrase, c'est le pitch de votre spectacle.
Oui, ça me fait rire.
Il faut être fou de commencer comme ça.
Ça me fait rire parce que je trouve qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et d'autodérision sur sa propre vie.
Un mot de votre carrière, vous êtes arrivée à la télé par la radio. En quoi votre vie quotidienne a-t-elle changé, si tant est qu'elle ait changé, quand votre visage est devenu connu?
Ah bah c'est... D'abord ça arrive du jour au lendemain.
Est-ce que c'est devenu une joie ou un enfer? Ou les deux?
Ah ben je dis toujours que c'est une prison dorée, on va pas se plaindre, mais après, lorsque vous êtes très connu, c'est pas comme quand vous rentrez du bureau, le soir, voilà, vous rentrez du bureau, c'est fini. Nous, c'est pas fini, c'est non-stop. Ça veut dire qu'il faut se remettre en question tout le temps, ça veut dire que je ne sors jamais démaquillée, je fais très attention, il y a plein d'endroits où je peux pas aller à la plage depuis 15 ans. Je ne vais jamais
ah bon
à la plage, ben non. Je ne vais pas à la fête foraine avec ma nièce, il y a plein de choses que je ne fais pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus cool, mais il y a une certaine époque, c'était totalement impossible. Donc voilà, après, il y a les avantages et les inconvénients. Il y a quand même énormément d'avantages, on a quand même une jolie vie, on a rencontré des gens fabuleux, mais à côté de ça, il y a plein de choses qui sont très très difficiles, la presse people, ce qu'on dit de vous, la méchanceté, enfin voilà.
Ah bah bien ce qu'on disait de vous, vous vouliez pas être prise pour une potiche, et j'ai retrouvé une interview de vous, de François, qui date de 2004, et vous dites ils m'ont pas pris comme une potiche, sinon ils auraient pris une bombasse à gros nichon.
Ouais.
C'est pas ce que vous étiez ?
Non.
Les gens vous voyaient comme ça ?
Alors, avec du recul...
Pardon de vous dire la chose comme ça, mais on vous a jamais perçu comme quelqu'un de plat.
Non, je suis pas quelqu'un de plat dans tous les sens du terme.
Non, vous avez très bien compris.
Sauf que je ne suis pas ce que j'appelle une bombasse. Une bombasse, c'est une vraie jolie fille.
On a du mal à l'imaginer. Vous dites que quand vous étiez petite, vous étiez un garçon manqué.
Ouais, mais je suis toujours un garçon manqué.
Ah bon ?
Ah oui, oui. Je n'aime que les trucs de garçons, c'est terrible.
Oh, le joli lapsus, je n'aime que les garçons, vous avez dit.
Oui, je n'aime que les garçons, mais je n'aime que les trucs de garçons. C'est-à-dire que je préfère m'acheter des voitures que des vêtements. Je préfère m'acheter de l'électroménager ou du bricolage plutôt que m'acheter des sacs. Enfin voilà, je vis comme un garçon.
Vous êtes fan de bricolage ?
Ouais, j'adore.
Vous achetez quoi ? Vous faites quoi ?
Je passe mon temps dans les magasins de bricolage.
Waouh.
Ça démystifie. Hein.
Dernier achat au rayon bricolage.
Un nettoyeur vapeur.
Ça fait rêver.
Ouais.
Je vais être plus sérieux. Vous dites que votre pire souvenir dans le métier, c'était la fin de la méthode Coé. Vous avez dit, on n'a pas compris pourquoi on était viré, alors qu'on faisait 27% de part de marché.
Ouais.
Et je dois reconnaître que moi non plus, je n'ai pas compris. Pourquoi ont-ils supprimé l'émission à TF1 ?
On n'a pas compris.
Le recul maintenant.
On s'est dit que c'est parce qu'on ne correspondait plus à la nouvelle identité que voulait mettre en place TF1. Et puis tout à coup, ça s'arrête du jour au lendemain, sans vraiment d'explication.
Mais avec le recul maintenant, normalement on arrête une émission quand elle marche pas.
Ouais.
Je crois que c'est un des rares cas d'émission qui a été arrêtée alors qu'elle marchait. Exception faite des explications politiques.
Je pense que ça ne plaisait pas à Nance Paolini. Voilà, point final.
Cécile de Minibus n'avait pas eu votre bac ?
Non.
Mais vous avez repris vos études, et pas n'importe où, à Sciences Po.
Ouais.
Comment est-ce possible ?
Je fais un Master 2 à Sciences Po, en communication politique et numérique, parce que justement, je n'ai pas passé mon bac, et puis aujourd'hui, je le regrette.
Comment se fait-il qu'on voit à quel point les gens bataillent pour entrer à Sciences Po ? Comment ils vous ont laissé entrer, vous ?
Non, parce que d'abord, c'est pas Sciences Po, le cycle Sciences Po traditionnel, Master 2. Ils sont venus me chercher sur LinkedIn. C'est drôle parce que, en me disant, voilà, votre profil nous intéresse, donc j'ai cru que c'était une vanne. Je leur ai dit, comme ma sœur a fait Sciences Po, je leur ai dit, je pense que trop de prénom, vous parlez de ma sœur Béatrice. Ils m'ont dit, non, pas du tout. Et donc, je les ai rencontrés. Et ce qui les intéressait, c'est mon expérience sur les réseaux sociaux de personnalité pour pouvoir échanger avec d'autres DIRCOM de la session.
Comment vous étiez accueilli par les autres élèves ? Vous les croisez ? Vous les voyez ?
C'est marrant parce que quand j'arrive à la machine à café, tout le monde s'écarte. Bon, maintenant, non, parce qu'on se connaît, mais au début, c'était assez édifiant. Et c'est vrai qu'on a plus tendance à vous écouter, à vous regarder. Les gens sont mal à l'aise. Et moi, comme je suis un peu une chef de meute et que je suis un peu déconneuse et qu'ils ont vu que c'était plutôt facile d'accès, ça se passe très, très bien. Et on a un groupe, en tout cas, la session 5, qui est formidable.
Il y a des beaux mecs à Sciences Po ?
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Cécile, je ne suis pas là pour l'instant. Non, mais c'est pas ce que je regarde.
Cécile de Minibus avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Cécile de Minibus avec nous, comédienne et également animatrice de radio et de télévision et étudiante à Sciences Po. Alors, j'avoue, j'ai été hyper déçue.
Merde.
Parce que j'ai préparé une question depuis très longtemps. Je voulais savoir quel effet ça fait de s'appeler Minibus et de se faire vanner toute son enfance à Minibus. Sauf que c'est pas votre vrai nom.
Si, c'est mon vrai nom.
Bah non, il paraît que c'est le patronyme de votre mère.
Oui, en fait, une histoire de famille fait que je porte le nom de maman, mais je ne rentrerai pas dans c'est assez douloureux.
Mais la seule chose qui m'intéresse, c'est comment vous appeliez quand vous étiez au CP.
En fait,
vous appeliez pas de minibus en classe.
Si, je m'appelais. En fait, le nom de mon papa, c'est Moharic Éloin, et on a ajouté les deux noms. Cécile Anne Moharic Éloin de Minibus. Et comme mon père ne voulait plus qu'on porte son nom, on a porté le nom de maman depuis qu'on est toute petite.
Waouh, je m'attendais à une question rigolote.
Et ben voilà, c'est moins
bim,
drôle. Je vous avais dit que ça serait pas drôle.
Je tombe dans le pathos.
Voilà.
Est-il vrai que vous avez été standardiste dans une agence de mannequins ?
Homme. Mannequin, homme.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai bavé pendant 2 ans. Ça n'a rien à voir au bout.
C'est pas vrai.
Ah si, c'était énorme. Je crois que j'ai vu les plus beaux garçons de la place de Paris devant moi, qui me posaient des questions et qui me sollicitaient, parce que forcément j'étais un peu le lien entre les patrons et les castings, en me disant mais moi sur le casting, ah, je sais pas, voilà, c'était énorme.
Et jamais vous avez réussi à avoir une histoire?
Non, jamais, non. Peut-être aujourd'hui avec la notoriété, hein, ça aide.
Mais parce qu'ils préféraient les garçons ou parce que vous étiez pas jolie?
Bah parce que j'ai jamais été une très jolie fille et puis la notoriété fait que vous apprenez à vous rendre plus jolie, voilà.
Est-il vrai que vous avez présenté l'infotrafic et la météo dans une radio belge?
Absolument.
Est-il vrai que quand vous avez une vingtaine d'années, vous avez commencé des études pour devenir commissaire de police?
Mm-hmm. J'ai fait une licence en droit.
Vous étiez photographe pour la Formule 1, c'est vrai ça aussi?
Ouais.
J'arrive pas à le croire.
Ouais.
Vous étiez pigiste pour le magazine Auto Plus. C'est vrai ou pas?
Oui.
Vous l'avez dit à la Provence il y a pas longtemps.
Ah oui.
Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai?
Mais oui, c'est vrai.
Vous écrivez quoi?
Bah, je sais pas.
Le test de la boîte vitesse de la Ford Fiesta?
Non, on travaillait sur des voitures, sur des produits, sur voilà, c'était rigolo. Quoi.
Est-il vrai que vous avez failli mourir, percuté par Christophe de Chavannes dans une course de voiture?
Alors, mourir, non. Sauf que sur Aspa, Christophe de Chavannes m'a percuté très très fort. Et je suis partie en tête à queue, sauf que je me suis retrouvée au milieu de la piste. Et devant moi, il y avait 50 voitures hystéro. Et j'ai cru effectivement que moi, j'allais mourir.
Et il paraît que dans une autre course, vous avez fait 7 tonneaux par l'avant.
Ouais.
Vrai?
Ouais.
Vous n'êtes pas dit, je suis folle, qu'est-ce que je fous là, je vais arrêter ça?
Ouais, c'est exactement ça. Je me suis dit, je suis complètement folle. Et j'ai vu les yeux de ma mère sur le bord du circuit. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrête.
Attendez, en faisant 7 tonneaux, on a le temps de voir les yeux de sa maman?
Non, parce qu'en fait, on voit sa mère sur le bord du circuit quand on passe. Et elle est stressée parce que vous passez pas, parce que voilà. Et il y a un moment donné, je pense que j'avais pas suffisamment de pète au casque, comme on dit dans le sport automobile, pour continuer.
Est-il vrai, je n'arrive pas à le croire, que vous ne faites ni gym, ni régime?
Non, rien. C'est-à-dire que j'en ai fait beaucoup. Mais je pense que je suis tellement surexcitée tout le temps que ça me sert de régime. Et puis je cours sur des talons toute la journée.
Cécile de Minibus, est-il vrai que bien avant d'avoir le permis de conduire, vous faisiez des paris dinars à fond sur l'autoroute, avec votre mère assise sur le siège passager?
Alors à fond, non. Mais je faisais effectivement des paris dinars avec maman à côté.
Vous aviez quel âge?
J'avais 16 ans, 17 ans.
Ou j'ai eu peur que vous allez dire 7 ans.
Ah non, mais maman n'est pas totalement, folle.
Oui, mais vous, oui.
Non, je suis quand même quelqu'un d'assez raisonnable.
Ah bon?
Ouais.
Alors là, je veux dire, dans toutes les interviews, quand quelqu'un vous demande « qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ?», vous dites « je veux faire quelque chose de dangereux ».
Ouais, mais j'aimerais.
Donc vous n'êtes pas raisonnable du tout?
Si, je suis raisonnable avec les autres, mais pas avec moi-même.
Merci beaucoup, Cécile de Minibus, d'être venue nous voir.